France Culture.
Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons encore d'islamisme, encore et toujours, sauf que cette fois-ci, l'islamisme est au féminin. Et c'est avec grand plaisir que je reçois Louise Eliafi. Louise Eliafi, bonjour, je devrais dire maître Eliafi. Vous êtes avocate, vous êtes juriste, une femme qui dit le droit aussi. Et vous êtes essayiste, vous vous intéressez à ces questions d'islamisme et vous parlez des femmes et de la femme comme un islamiste comme les autres. Et j'ai été surpris du masculin, pourquoi la femme est un islamiste comme les autres. Elle aurait pu être aussi une islamiste.
Mais parce qu'on ne la considère pas tellement comme une islamiste. On la considère comme femme d'islamiste, on va la considérer comme mère ou sœur d'islamiste, mais rarement islamiste elle-même. Et moi, ce que j'ai voulu raconter dans cette enquête, qui m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, puisqu'au départ, je pensais que j'allais écrire ce livre en un an, et en fait, il m'en a pris pratiquement trois. Et ce que j'ai voulu raconter dans ce livre, c'est comment on a, pendant des années, fait comme si la femme n'avait aucune autonomie dans sa propre radicalisation. Et probablement, très probablement par biais misogyne, la femme n'a pas d'agentivité, elle n'est pas capable d'agentivité, elle n'est pas capable d'être agente de son propre monde. Et moi, ce que je veux montrer, c'est que, en réalité, il y a beaucoup plus d'égalité, entre guillemets, entre les hommes et les femmes face à ce phénomène de radicalisation. Il y a beaucoup plus de points communs que de différences entre les hommes et les femmes face à ce phénomène de radicalisation.
Il y a deux aspects. En lisant votre ouvrage, je trouve l'idée qu'on a tout le temps considéré la femme comme étant un être plutôt dit faible. Mais en réalité, en ce qui concerne la radicalisation et même les idéologies d'une manière générale, elles peuvent être extrêmement fortes et fermes là-dessus.
Ça, en l'occurrence, c'est ce que j'ai constaté aussi pendant mes recherches, c'est que très souvent dans la radicalisation, notamment islamiste, je ne suis pas sûre que ce soit la seule radicalisation qui subisse ce phénomène-là, c'est qu'on se rend compte que dans la radicalisation islamiste, la femme est même très souvent beaucoup plus rigoriste que l'homme, parce que, alors, Daesh notamment, mais pas que, a été un peu ambigu sur l'interdiction pour les femmes de combattre, donc de prendre l'épée. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? C'est que les femmes ont été assignées à un rôle un peu différent, qui est celui de transmettre l'idéologie. Qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Ça veut dire que la femme est censée encore mieux connaître les textes, encore mieux connaître l'idéologie que l'homme. Et bon, ça, est-ce que c'est biologique ou sociétal? Les femmes sont aussi très souvent plus studieuses et meilleures élèves. Ça se retrouve encore beaucoup plus dans la radicalisation islamiste, où on voit notamment des couples au sein desquels la femme est encore plus connaisseuse des textes, est encore plus rigoriste et va être presque le modèle de vertu et de religiosité entre les deux.
Et cette connaissance des textes dans une veine radicale, extrémiste, elle les lise, je parle de ces femmes radicalisées, par elles-mêmes, elles penchent vers cet aspect-là où elles s'imprègnent d'autres écrits des prédécesseurs qui se trouvent être aussi soit des hommes, soit des femmes.
Ça, en l'occurrence, ça a probablement été ma plus grande, ou en tout cas l'une des plus grandes difficultés que j'ai eues. C'est la définition même de l'islamisme. Qu'est-ce que l'islamisme? Quelles sont les interprétations, surtout, sur lesquelles toutes ces personnes s'appuient pour décider qu'elles vont suivre telle idéologie? En l'occurrence, c'est aussi pour ça que je rappelle, j'ai tenu à rappeler au début de mon livre que, certes, l'islamisme vient de l'islam, mais il n'est qu'une interprétation. Et d'ailleurs, au sein de l'islamisme, vous avez un certain nombre de mouvances. Moi, j'ai décidé d'en étudier trois qui, me semble-t-il, sont les principales idéologies, en tout cas menaçantes en France et même ailleurs, c'est-à-dire le frérisme, le salafisme, dans sa forme quiétiste aussi, qui idéologiquement peut paraître sympathique comme ça, mais qui en fait ne l'est pas forcément, et puis le djihadisme.
De par séparatisme.
Tout à fait, exactement. Sachant que ces trois mouvances suivent le même objectif qui est d'islamiser la société, mais pas selon les mêmes méthodes, pas selon les mêmes narratifs.
Alors, chère Louise Eliafi, une énième fois, en tout cas cette antenne, on va parler d'islamisme, pas dans son acception du 19e siècle, et donc avec ces trois sous-branches ou trois tendances, avec ce mot nouveau aussi, le frérisme, et qu'avez-vous perçu, su, vu dans votre enquête des frères musulmans?
L'islamisme, si vous voulez, subit un peu les tendances un peu de chaque mois, de chaque année. Et tout d'un coup, on va s'intéresser qu'au djihadisme et on va dire que l'islamisme, c'est le djihad armé. Puis là, tout d'un coup, ça fait 1 ou 2 ans qu'on ne nous parle que de frérisme. Et la plus grande menace en France aujourd'hui, c'est le frérisme. Alors, en l'occurrence, pour le résumer le plus simplement possible, le frérisme, c'est au départ la recherche de la conquête institutionnelle du pouvoir pour imposer la charia. Et ce mot conquête est surtout institutionnel et probablement le mot le plus important parce que la méthode frériste, et notamment en Europe, c'est-à-dire en terre non islamique, on va dire, ça va beaucoup passer par la reconnaissance d'un droit à, entre guillemets, une identité musulmane. Ça va passer par la lutte contre les discriminations, notamment contre l'islamophobie. Et tout ceci peut ne pas paraître dangereux. Le fait est qu'on en revient toujours chez les fréristes, et comme chez tous les islamistes, à cette recherche d'une conquête du pouvoir en se séparant de l'autre. Mais la spécificité, pardon, de ce frérisme, encore une fois, c'est de passer par tous les moyens légaux et institutionnels proposés par une démocratie telle qu'on en a ici. C'est là que ça les rend, que ça peut les rendre dangereux, parce que justement très hors d'atteinte, hors de portée. Donc, en l'occurrence, les fréristes, moi, c'est ce que j'ai. C'est beaucoup sur les réseaux sociaux que j'ai fait la différence entre les trois mouvances. C'est qu'est-ce qu'elles disent, de quelle façon, avec quel narratif, avec quel visuel aussi. Comment est-ce qu'elles attrapent ces jeunes, parce que c'est très souvent des jeunes, garçons comme filles, sur les réseaux sociaux. Les fréristes, en l'occurrence, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup les luttes contre les discriminations. C'est-à-dire que un œil non aguerri va se dire que bon, c'est du militantisme assez lambda et assez
et
voilà et tout à fait et surtout très bien intentionné. Alors même que quand on creuse un peu et quand on comprend la méthodologie frériste, on arrive à capter cette séparation entre l'un et l'autre, et notamment entre, même si c'est pas toujours explicite, entre guillemets, le mécréant et le fidèle.
Pour revenir à la confrérie elle-même des frères musulmans, en l'espace de 10 ans, il va y avoir 1 million d'adhérents. Et celle qui a joué un rôle de la plus haute importance, c'est une certaine Zineb el-Razali. Et elle est en gros à la tête des sœurs musulmanes. Avez-vous vu dans votre enquête, dans ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux, une sorte de sororité, si je puis dire, où ces sœurs musulmanes donnent des instructions, voire des injonctions à d'autres sœurs, comme elles disent, pour les enrôler?
Alors, en l'occurrence, cette sororité, elle n'est pas que frériste. On la voit dans à peu près toutes les mouvances, et d'ailleurs, la fraternité aussi. Le fait de considérer un homme comme son frère, exactement la même chose que chez les femmes qui se considèrent comme des sœurs. Cette sororité est un véritable outil de propagande, parce que, notamment Daesh a beaucoup joué dessus, mais ce ne sont pas les seuls. La plupart des mouvances islamistes vont beaucoup jouer sur ce côté alliance familiale, presque parfois à la façon de mafia. Je m'explique. Le mariage typiquement à l'islamiste, ça s'est beaucoup vu chez Daesh, c'est beaucoup fait, et on l'a beaucoup vu en France, du fait de l'alliance de familles d'islamistes, en l'occurrence d'islamistes djihadistes, qui se sont mariés entre eux. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, je vais beaucoup moins facilement trahir mon beau-frère que juste un ami. En revanche, cette prétendue sororité, même si elle sert beaucoup, effectivement, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, à donner une forme bienveillante à une idéologie qui, donc justement, est assez séparatiste et qui peut être extrêmement dans le rejet plus qu'autre chose. Cette sororité en réalité a des limites et les femmes, beaucoup de femmes, s'en sont rendues compte lorsqu'il a été question de polygamie. Par exemple, la polygamie est probablement l'une des plus grandes limites à cette sororité, et elle est la preuve, je parle là en l'occurrence vraiment plutôt des milieux djihadistes, mais cette polygamie est probablement la principale limite à cette prétendue sororité qui, par ailleurs, s'arrête aussi à certaines femmes. C'est-à-dire que vous avez d'une part la polygamie qui vient dire « bon bah... » tu vas partager cet homme avec une autre femme. En fait, il y a beaucoup de femmes qui en faisaient l'éloge, qui, en pratique, se sont rendues compte que ça n'était pas du tout ce qu'elles attendaient. Et là, tout d'un coup, la sororité disparaissait. Et puis, il y a autre chose. Les femmes, là, je parle aussi beaucoup des djihadistes, mais pas que. À partir du moment où l'islamisme, peu importe la mouvance, est séparatiste, ça veut dire que la femme considère que d'autres femmes... si elles ne sont pas musulmanes comme elles considèrent qu'elles devraient l'être, ne sont pas ses sœurs, et par conséquent doivent être rejetées. Donc cette sororité n'est qu'un outil de propagande qui, en fait, a beaucoup de limites.
Bon, ça c'est pour, j'allais dire, les frères musulmans et les sœurs musulmanes. Donc on est dans la tendance aux mouvances fréristes. Qu'en est-il pour la tendance aux mouvances salafistes, quiétistes, comme vous le dites si bien? Là, les femmes salafistes, le français ne rend pas le féminin, comment agissent-elles et comment se singularisent-elles?
Dans le salafisme, on est d'abord sur une sorte de retour aux sources. On est sur un retour à l'islam originel. Ce qui rend les alors, il y a salafiste, il y a effectivement cette épithète de quiétiste. Parce que le salafisme... même si ça, en l'occurrence, a été démontré ces dernières années, a été très souvent une passerelle idéologique pour le djihadisme armé. Vous avez effectivement cette sous-mouvance, on va dire, de salafisme quiétiste, à laquelle je me suis beaucoup intéressée parce que les femmes ont un rôle très important en son sein. Pourquoi est-ce que salafisme quiétiste? Parce que c'est un salafisme qui est censé, en tout cas qui prône le pacifisme, en tout cas qui va condamner les attentats, qui va condamner toute action armée au nom de l'islam, toute action violente plutôt au nom de l'islam. Voilà pourquoi on les appelle quiétistes. Et en l'occurrence, cette mouvance a été notamment dangereuse du fait que parce qu'elle donnait l'impression d'être pacifiste, on considérait qu'elle n'était pas dangereuse. Alors même que l'idéologie est forcément en amont, une idéologie existe forcément en amont d'une action violente. Et ça se confirme dans l'islamisme. Le salafisme quiétiste a cela d'étrange, entre guillemets, qu'il prône la non-violence, mais il a été une passerelle idéologique très importante vers cette même violence. Pourquoi ? Parce qu'il est séparatiste. Il est séparatiste dans son essence, encore une fois, comme les autres mouvances islamistes, mais parce que le salafisme, étant un retour aux sources de l'islam, c'est-à-dire un retour à comment le prophète vivait, alors il ne peut être que séparatiste dans une société qui n'est pas islamique, en l'occurrence la France. Les femmes salafistes quiétistes sont assez intéressantes parce que je parlais des réseaux sociaux juste avant. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, donc notamment des groupes de discussion WhatsApp, Facebook, etc., salafistes, c'est assez extraordinaire à voir. C'est la caricature du féminin, c'est-à-dire que tout est rose, tout est très bonbon, tout est très empreint de bienveillance, de sororité, de nounours, de cœur, enfin, c'est quelque chose, si vous voulez, quand vous regardez ça, que vous soyez une personne lambda, un chercheur, un policier qui essaye de faire du renseignement, que sais-je, vous dites, mais quel est le danger là-dedans? Et en fait, quand on creuse un peu dans le discours, on se rend compte que c'est encore une fois le nous et le eux. Donc, quiétisme, oui, mais pas idéologiquement très séparatiste.
Le paradoxe que vous soulignez, c'est que les salafistes, hommes ou femmes, disent « nous ne faisons pas de la politique » ou d'ailleurs « nous en faisons parce que notre meilleure façon de faire de la politique, c'est de ne pas en faire ». Or, c'est déjà une déclaration franche pour ce qu'on appelle maintenant le séparatisme. Et le plus grave encore, c'est que cette façon de se retirer comme ça d'une société considérée comme impure, mécréante, est déjà une sorte d'idéologie préparatoire au djihad armé J'étais frappé en lisant votre ouvrage et à vous entendre. Vous qualifiez le djihad d'armée parce que cela sous-entend que tout seul ne l'est pas.
Le djihad, c'est l'effort dans la voie de Dieu. Oui. Donc non, il n'est pas forcément armé. Et d'ailleurs, le mot lui-même djihad est beaucoup plus récent que l'époque du prophète. Donc en l'occurrence, la version contemporaine du djihadisme est une version qui est violente. Ça, effectivement, on parlait des années 90 tout à l'heure, on pourrait même revenir un petit peu avant. Cette forme-là de djihadisme est violente. Le djihad lui-même, au départ, n'est pas forcément violent. En tout cas, il existe sous plusieurs formes. En l'occurrence, par le verbe, par l'épée, etc. Les femmes djihadistes, alors juste pour revenir sur ce mouvement, c'est un mouvement tel qu'on le connaît, donc encore une fois sous cette forme très violente, on le connaît, on va dire, bon, Afghanistan années 80, c'est à peu près ça le djihadisme, et c'est ce que je disais avant, ça prône le recours au djihad armé pour islamiser, et notamment à l'encontre de ce qu'on va appeler les koufars, c'est-à-dire les mécréants. Bon. Ça, c'est le djihadisme. Je pense que la place des femmes dans le djihadisme est probablement la plus opposée à ce qu'on pensait qu'elle était. C'est-à-dire que, salafisme quiétiste, frérisme, pourquoi pas. Le djihadisme, tout le monde pendant des années s'est dit « mais en fait, les femmes sont incapables d'être aussi violentes que les hommes ». Et on se rend compte de quelque chose, c'est que la notion, l'une des notions piliers du djihadisme, c'est-à-dire le takfir, est en fait extrêmement utilisée par les femmes. Donc c'est une notion, pour la résumer, qui consiste à dire « un tel est musulman, l'autre ne l'est pas ». Et ce qui est incroyable, c'est que, je précise que ça ne consiste pas qu'en ça dans le djihadisme, ça consiste quand même à dire « cette personne peut mourir et cette personne peut vivre ». Il y a aussi ça beaucoup dans le djihadisme tel qu'on le connaît. Moi, ce que j'ai vu, encore une fois, sur les réseaux sociaux, ce sont des femmes qui s'octroient le droit de takfiriser.
Le takfir, c'est en gros de considérer, comme vous l'avez si bien dit, qu'un tel peut agir d'une telle façon qui serait considérée même comme une forme d'apostasie ou de ne pas mériter de faire partie de la communauté, auquel cas on l'excommunie. Et donc, à juste raison, vous avez utilisé ce néologisme, ce verbe-là, qui considère qu'autrui, finalement, n'a pas la bonne foi, ou la foi telle qu'on la considère. Et ça, c'est d'une extrême violence.
Et j'ai été moi-même surprise de constater que les femmes s'octroient ce droit aussi. Et que donc, il y a une véritable égalité dans cette violence, en tout cas dans cette volonté de violence, à minima idéologique, de la part des femmes.
Vous avez glissé, et vous avez tout à fait raison de le faire, vers la troisième partie de l'islamisme violent, avec le djihadisme. Comment expliquez-vous que dans les années 80, juste avec l'année fatidique de 1979, les moudjahidines, mots de la même racine que djihad, qu'on n'appelait pas encore djihadistes, étaient plutôt sympathiques avec le commandant Massoud, etc.
Pourquoi est-ce qu'ils paraissaient sympathiques? Je pense que... Alors, est-ce qu'ils paraissaient sympathiques partout? Je ne sais pas. Je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire la France. Je pense que la France, de par son histoire, a toujours beaucoup fantasmé les révolutionnaires. Et vous parliez très justement de 79. La France et notamment un certain nombre d'intellectuels, Sartre, Foucault, etc., étaient absolument ravis de cette révolution parce qu'ils avaient oublié que derrière le mot révolution, il y avait le mot islamique. Et effectivement, vous prenez dans un autre pays le commandant Massoud. Encore aujourd'hui, je crois qu'il y a quelques années, on a fait une rue à son nom à Paris, me semble-t-il. Ce qui est effectivement un peu étonnant parce que c'était quand même pas tout à fait un enfant de cœur. Mais effectivement, il y a une forme de sympathie. Il y a eu en tout cas une forme de sympathie jusqu'à ce que, je pense, on soit touché dans notre chair. Et qu'on comprenne qu'en réalité, ces gens n'étaient pas du tout si bien intentionnés que ça. Je pense qu'il y a une forme de condescendance depuis très longtemps et encore aujourd'hui, qui consiste à croire que la France, mais j'irais même jusqu'à dire l'Occident, est forcément plus maligne que ces gens-là. Et ce qui est incroyable, c'est que ça fait quand même quelques décennies que les islamistes, mais pas que, ont quand même montré qu'ils étaient parfaitement capables d'avoir un temps d'avance, même plusieurs sur nous, et que nous ne comprenons toujours pas, et que nous ne cherchons toujours pas à comprendre les racines de ce mal.
Oui. Je le dis sous votre regard avisé, c'est vous qui avez mené l'enquête, c'est que, en réalité, le vocable, le terme moudjahid, n'était pas, en tout cas, si connoté négativement.
Tout à fait.
Le commandant Massoud était un poète, il combattait les proto-talibans ou les talibans. On le disait même de Bourguiba, il n'y a pas plus laïque que lui, le combattant suprême ou le moudjahid, le grand moudjahid, etc. Ce n'est que par la suite, quand on s'était rendu compte que lorsque le terme djihad et la notion que ce terme sous-tend est devenu exclusivement quelque chose d'extrêmement violent et de barbare, qu'on est passé de moudjahid à djihadiste. Peut-être quelque chose d'un peu plus intensif. Chère Louise Aliafi, cette violence que les fous furieux de Daesh ne voulaient pas la laisser aux femmes pour la pratiquer en tant que telle, vous avez à juste raison dit on ne les laissait pas utiliser l'épée, mais c'est plus grave encore que lorsqu'il s'agit des idées.
Je vais juste revenir brièvement sur cette ambiguïté, parce qu'il y a eu une ambiguïté quand même de Daesh sur cette question de combattre pour les femmes. C'est que la règle au départ, c'est la femme ne peut pas combattre par l'épée, elle n'est pas là pour ça, elle est là pour porter l'enfant, l'éduquer, lui transmettre l'idéologie d'un bon enfant musulman. Ça, c'est la règle au départ. Sauf que il y a eu deux choses. La première, c'est que en 2016... c'était pas un cas complètement isolé, mais en France, en tout cas, ça a été la date du déclic général. C'est que septembre 2016, vous avez quatre femmes d'âge assez différents qui se connaissaient depuis à peine quelques semaines sur les réseaux sociaux, qui décident, radicalisées, Daesh, décident que ce serait une bonne idée d'aller faire exploser une voiture aux abords de Notre-Dame. Heureusement, elles loupent leur coup. Parce que amatrice, elle confond diesel et essence. Heureusement, parce que ça aurait fait un certain nombre de dégâts humains. Elles sont interpellées, elles ont été jugées, elles ont été condamnées entre 20 et 30 ans de prison ferme.
Bon. Dont une Inès Madani.
Exactement.
Qui a été
le cerveau un peu de... Bon, le cerveau entre guillemets, mais quand même le cerveau de l'opération. Qu'est-ce qui se passe en 2016? On se rend compte, ébahi, que... Les femmes sont tout à fait capables de violence, sont capables de violence dans cette idéologie islamiste. C'est-à-dire que jusqu'à 2016, on interpellait les hommes qui étaient surveillés pour des faits liés à l'idéologie djihadiste. Leurs femmes, on les laissait tranquilles ou éventuellement, on les emmenait en garde à vue. On les interrogeait un peu pour glaner des renseignements sur leur mari et puis on les relâchait. Bon. Là, en 2016, on se dit, mais en fait, on a fait n'importe quoi. Sauf que côté Daesh, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mince, à la fois, on peut pas complètement revendiquer l'attentat, parce qu'elles l'ont fait, encore une fois, pour Daesh. Daesh, l'organisation de Daesh est extrêmement dérangée par cet événement, parce qu'ils se disent, on ne peut pas complètement revendiquer cet événement parce que les femmes ne sont pas censées combattre. Donc, elles ont complètement... mis à bas nos principes de patriarcat, de peu importe, et en même temps on va pas laisser passer l'occasion de dire regardez à quel point on est encore fort en 2016. Bon, donc il y a eu une ambiguïté de Daesh là-dessus qui a été nourrie également par autre chose, c'est que on arrive sur 2017, Daesh est en très mauvaise posture, en tout cas de plus en plus. Ils perdent de plus en plus d'hommes, il va bien leur falloir des combattants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des enfants, des personnes âgées et parfois des femmes. Et les troupes ennemies de Daesh le disaient elles-mêmes, quand on voyait en face des femmes avec des armes, on savait que Daesh était en mauvaise posture. Parce qu'en fait, c'était qu'ils n'avaient plus le choix. Donc ça, c'est pour le côté combat par l'épée. Mais effectivement, la première fonction de la femme islamiste, et notamment dans l'idéologie djihadiste, c'est de transmettre l'idéologie.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui, nous parlons de l'islamisme au féminin et heureusement que nous avons Maître Eliafi, Louise Eliafi, qui est avocate, essayiste, qui a mené toute une enquête pour comprendre le comportement des femmes islamistes et pour elle et pour Louise Eliafi, donc, la femme est un islamiste comme les autres. Avant de poursuivre cet entretien avec vous, chère Louise Eliafi, pourquoi étiez-vous vous-même intéressée à mener cette enquête ?
Je pense que c'est le savoureux mélange entre mes deux sujets de prédilection, c'est-à-dire
que nous ne nous connaissons pas encore. Alors.
Non, mais effectivement, j'ai beaucoup d'affect pour le sujet à la fois des femmes et de l'égalité des sexes, mais aussi pour le sujet de la radicalité religieuse. Et donc, par conséquent, ces deux sujets ne peuvent que s'entrechoquer puisque on pourrait dire que les femmes subissent beaucoup cette radicalité religieuse et sont même souvent les premières à la subir. Mais
Elles peuvent être aussi actrices.
Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'au-delà de la seule soumission à cette radicalité religieuse, j'ai eu envie de parler d'un sujet dont personne ne parle, qui est comment est-ce qu'elles peuvent en être actrices ? Comment est-ce qu'elles peuvent être actrices d'une idéologie qui est censée les inférioriser ?
Pour cette deuxième partie, Louise Eliafi, vous vous êtes dit, d'accord, l'islamisme puise sa doctrine. Il y a une lecture des textes et donc vous avez mené votre enquête cette fois-ci en allant dans les ressources scripturaires premières, donc le Coran, puis tout ce qui se dit à propos de la Sunna, la tradition prophétique. Et vous avez fait là une enquête cette fois-ci d'historiographe ou presque de théologienne et vous avez découvert que maintenant, ces femmes islamistes féminisent, y compris les titres.
Tout à fait.
Moufti, Mouftiette au pluriel, les compagnons du prophète, donc compagnonnes, donc sahabiettes, etc.
Oui.
Et pourquoi ? Parce que ça servait leur cause et ça leur donnait du poids ?
Oui, c'est-à-dire que... Alors, sur toutes ces femmes au temps du prophète, il y a effectivement un préconçu qui est que en fait, elle n'aurait jamais servi à quoi que ce soit. On a beaucoup cette image de Aïcha qu'on cantonne à son statut d'épouse-enfant, alors même que Aïcha a une histoire beaucoup plus complexe et plus intéressante, je crois, que celle-ci. Mais en réalité, les femmes avaient une... En tout cas, certaines femmes, on va dire les femmes du prophète, donc ses épouses, ses concubines, certaines de ses filles, mais avaient quand même un statut d'autorité qui était très conséquent. Néanmoins, elles n'ont a priori jamais eu, je parle de ce que dit la doctrine islamique plutôt majoritaire, standard, on va dire, elles n'ont a priori jamais eu le même statut que certains hommes, et notamment celui de compagnon. Preuve étant, aucune femme n'a demandé à être calife. Bon. Au-delà de ça...
On aura plus tard les sultanes, les fameuses sultanes oubliées.
Mais tout à fait. Mais plus tard.
Bien plus tard, mais, c'est vrai.
Mais en l'occurrence, ce que j'ai effectivement trouvé en faisant mes recherches là-dessus, c'est que on se rend compte que les islamistes, pourtant sexistes par nature, enfin qui en tout cas prônent une idéologie qui est censée inférioriser la femme, qui en tout cas n'est pas ne souhaite pas lui donner le même rôle d'importance que l'homme, fait un exercice qui est très étrange, puisqu'ils font un exercice d'égalitarisme dans l'islam, en disant non, les femmes avaient une, et c'est un travail qui est fait et par des hommes et par des femmes radicalisées par ailleurs, non, les femmes avaient un statut extrêmement important, même égalitaire aux hommes, et d'ailleurs on va féminiser ces termes qui ne connaissent, c'est le cas notamment de Saraba, n'a pas de féminin en arabe, donc c'est vraiment une invention. Et on va faire un lien entre deux choses qui n'ont pas forcément de lien au départ dans le Coran, c'est-à-dire la Oum et la Ouma. La Oum étant la mère, la Ouma étant la communauté des hommes ou la communauté des musulmans.
C'est pour ça qu'on le traduit parfois en français comme une matrie.
Tout à fait.
Et ce n'est pas la patrie qui est le lien avec la terre. La matrie transcende les clivages géographiques.
Et en fait, c'est intéressant quand on commence un peu à faire un travail, notamment de linguistique, ce qui n'est pas mon métier. Hein, donc j'ai eu la chance d'être bien entourée aussi pour ce travail-là. C'est que quand on regarde, par exemple, cette Oum et cette Ouma, la Oum vient d'un terme qui veut dire le fait de nourrir, que la Ouma n'a pas la même racine étymologique et vient plutôt de Ham qui veut dire le fait de rassembler comme un imam. C'est ce qui a donné le terme imam. Et les islamistes, notamment Daesh qui a été très très bon là-dedans, ont mis de l'égalité là où il n'y en avait pas au départ. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pour dire aux femmes, mais venez. Venez, nous allons vous inclure et vous donner un rôle absolument exceptionnel dans cette idéologie. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les femmes n'avaient pas du tout de rôle au départ dans l'islam, mais elles n'avaient pas celui-ci. Et ça, en l'occurrence, c'est quelque chose qui a été très mal compris. Et c'est là, je crois, qu'on a manqué l'intelligence de ce groupe d'État islamique qui a consisté non pas à dire « venez, vous serez soumises », mais « venez, vous serez puissantes ». Et c'est là où on a manqué, je pense, de bon sens et qu'on s'est dit que « ah, ben, toutes ces femmes qui y vont par soumission ». Mais pas du tout. Toutes ces femmes n'y sont bien sûr pas allées par soumission. Elles y sont allées parce qu'on leur a promis, à notamment beaucoup d'entre elles qui se sentaient marginalisées peut-être dans une société française, on leur a dit, mais venez, vous aurez un rôle extraordinaire, vous serez puissante. Je vais juste conclure cette réponse sur une anecdote. C'est Marie-Rosanne Klein, qui est, alors, est-ce que c'est la mère ou la grand-mère? Je ne sais plus. En tout cas, c'est, non, je pense que c'est la grand-mère. Donc,
et qui est la voix famille féminine de Daesh en France, oui.
Et donc, pour rappel, cette famille Klein, c'est la grande famille de djihadistes français. Et effectivement, ces deux fils, me semble-t-il, ont été les voix francophones de Daesh. C'est eux qui vraiment ont fait la propagande audiovisuelle, notamment audio surtout, de Daesh en France. Et cette femme s'est retrouvée à la tête d'une tribu de Daesh. Et elle le dit elle-même, me semble-t-il, à Hugo Micheron, qui l'a rencontrée, qui l'a interrogée. Donc elle avait été interpellée. Elle lui dit, mais en fait, je n'étais rien. Avant Daesh, je n'étais rien. Et après Daesh, je suis devenue la matriarche respectée à la tête d'une tribu de djihadistes. Et pour moi, c'est très représentatif de ça. C'est que ces femmes-là, on leur a fait croire, certaines, ceci dit, ont eu un statut social extrêmement élevé. C'était pas seulement leur faire croire, parfois c'était la réalité. Mais on leur a fait des promesses d'émancipation et de puissance, et pas du tout de soumission.
Louise Eliafi, tout à l'heure, le souci scrupuleux qui m'anime à ne pas vouloir vous interrompre à chaque fois m'a laissé passer, a fait laisser passer une idée quand vous avez parlé des épousailles plus que d'un simple mariage. C'est pour consolider des alliances et vous avez même parlé de mariage un peu de type mafieux. Qu'en est-il des veuves qui finalement se retrouvent sans mari? Comment sont-elles prises en charge? Et ceci, selon votre réponse, conforte encore celles qui se disent « bon, j'aurai quand même une famille ».
Oui, tout à fait. Alors, le veuvage a un statut assez particulier, mais par ailleurs, je ne crois pas que ce soit spécifique à l'islam. Le veuvage a, au départ, un statut particulier dans l'islam. Il en a encore plus un dans l'islamisme conquérant, qui non seulement ne veut pas qu'on laisse une femme, alors ça en l'occurrence c'est plus islamique d'ailleurs qu'islamiste, c'est on ne laisse pas une femme sur le côté, entre guillemets, à côté du monde, on la réintroduit comme on peut dans la communauté. Il y a des veuves par exemple qui ont été mariées sous le régime...
Presque du Lévira, voilà. Si on remonte au devancier juif, mais c'est vrai que vous parlez de ne pas laisser quand même une veuve, voilà. A fortiori si elle a des enfants, donc les veuves Exactement. Et les orphelins, on ne doit pas les laisser
Exactement.
À la marge.
Exactement, donc il y a cette fonction aussi de la communauté de ne pas laisser une veuve, a fortiori effectivement si elle a des enfants sur le bas-côté entre guillemets, En revanche, le veuvage a fortiori une fonction extrêmement importante dans l'islamisme et notamment le djihadisme conquérant, violent et conquérant, puisque la veuve peut aussi, alors selon son âge, mais peut aussi avoir comme fonction de encore plus se reproduire, c'est-à-dire on ne va pas laisser une femme sans qu'elle puisse satisfaire à cette fonction de reproductrice. Alors, excusez-moi le terme, mais c'est quand même comme ça que les femmes étaient beaucoup perçues par cette idéologie. Il y a un peu cette expression, d'ailleurs, qu'on a aussi beaucoup retrouvée à l'extrême droite historiquement, qui est un peu la femme est le ventre de la nation. Donc, on ne peut pas laisser une femme en âge encore de procréer sur le côté, puisqu'elle peut encore servir à assurer une descendance à notre communauté et donc à cette idéologie. Vous avez un certain nombre de veuves qui ont eu par ailleurs des statuts sociaux extrêmement importants parce que il y a le statut de veuve, mais il y a aussi la question de veuve de qui. Parce qu'à partir du moment où on est veuve d'un martyr extrêmement important, tout d'un coup on obtient une place dans la communauté qui est sans comparaison. Vous avez par exemple Ayette Boumediene, dont on a un peu parlé récemment parce qu'elle est, il est confirmé qu'elle serait vivante.
Et qu'elle est traquée.
Ce qui est un miracle, hein, parce que qu'elle ait survécu aux dernières années à Raqqa, je sais pas bien comment est-ce qu'elle a fait, mais bon. Donc elle serait a priori présumée vivante et toujours en Syrie, et effectivement traquée. Ayette Boumediene, pourquoi je parle d'elle? Parce que, pour rappel, elle est la veuve de Hamedi Coulibaly, qui s'est rendu coupable du massacre commis à l'hyper-cachère. Il a été parfaitement démontré qu'elle avait eu un rôle extrêmement important et très actif dans la préparation de cet attentat, par ailleurs, avec son époux. Je parlais tout à l'heure des femmes qui sont plus rigoristes que leur époux. C'était tout à fait le cas de Ayette Boumediene, qui apparemment disputait constamment son mari dès qu'elle trouvait qu'il était pas assez musulman à son goût. Ayette Boumediene, le lendemain du... Alors, c'était le 9 janvier, me semble-t-il, l'hyper-cachère. Au lendemain du 9 janvier 2015, part en Syrie. Elle était partie juste avant l'attentat, par ailleurs. Elle arrive en Syrie comme une reine, c'est-à-dire qu'elle est veuve de ce martyr qui a commis un attentat exceptionnel en France et qui a massacré ses mécréants et a fortiori des juifs. Elle acquiert un statut qui est tel qu'elle va devenir, pardonnez-moi pour cette expression très contemporaine, mais une influenceuse sans pair de la revue d'Abik, qui était la revue de Daesh. Elle écrit dedans régulièrement en expliquant « Moi, Ayette Boumediene », alors elle a pris un autre nom, c'est Oum quelque chose, je ne sais plus ce qu'elle a pris comme pseudonyme, mais « Moi, Ayette Boumediene, je vous enjoins à faire ceci, je vous enjoins à faire cela. Moi, veuve du martyr Hamedi Coulibaly, je ne peux être qu'un modèle pour vous.
Louise Aliafi, à l'évocation de Ayette Boumediene, vous qui avez mené donc cette enquête, et j'ose poser une question d'ordre psychologique. Bien sûr qu'il ne faut pas tout pathologiser ou psychologiser, mais comment expliquez-vous qu'une jeune femme qui, quelques semaines plus tôt, ou quelques mois, sur l'île Saint-Domingue, ou je ne sais trop quoi, en bikini, bronzée, vivait comme, tout en étant coquette, comme le serait une jeune femme de son âge, subitement... elle est convertie à cet islamisme-là et elle a davantage de connaissances, dit-elle, que son époux, qui lui, parfois, se comporte un peu à la marge.
Je pense qu'il y a... Alors, il y a effectivement ce phénomène de femmes, ce que j'ai appelé les femmes studieuses, parce que déjà, je crois que les femmes... Au départ, enfin, alors, c'est pas je crois, en l'occurrence c'est des données assez objectives qui le disent, mais les jeunes filles sont en général plus studieuses, meilleures élèves, plus rigoureuses que les hommes qui eux ont d'autres qualités.
Pardon, à ce sujet, j'ai aussi entendu et lu une personne dire « Oui, mais elle freine parfois des quatre fers pour ne pas avoir de bonnes notes afin de ne pas être tensée par leurs frères ».
Je vois très bien de quoi vous parlez. J'étais très en désaccord avec ça. Je pense que c'est très, très, très éloigné de la réalité, bien au contraire.
C'est même un non-sens total.
Oui, tout à fait.
Donc, au contraire, les jeunes filles, quelles qu'elles soient, travaillent davantage, y compris, malheureusement, quand il y a des dérives de cet ordre.
Tout à fait. Alors, c'est bien dommage, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de jeunes filles dont il serait préférable qu'elles étudie soit autre chose, soit les textes, mais d'une autre façon. C'est vrai que quand on fait ce constat de, en fait, ces femmes sont, pour beaucoup, c'était le cas de Ayad Boumediene, c'était le cas d'un certain nombre de femmes radicalisées. On peut parler de Souad Merah aussi, qui était quelqu'un de très studieux, la grande sœur de Mohamed Merah, qui a beaucoup contribué à la radicalisation de son petit frère. Effectivement, vous avez un certain nombre de femmes qui sont extrêmement studieuses. Par ailleurs, ça n'est pas une généralité. On parlait tout à l'heure de Inès Madani. Inès Madani n'en a strictement rien à faire de l'islam en réalité. Elle connaît très très mal les textes. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle n'en a rien à faire de l'islam. Elle n'en a rien à faire des textes. Elle n'a jamais été spécialement intéressée par le fait de développer son intellect sur ce sujet. Elle, ce qui vraiment la motivait, c'était la violence pure et dure. Donc ça, vous en avez un certain nombre qui sont comme ça. C'est plus souvent le cas chez les hommes que chez les femmes. Que les femmes vont vraiment être plus intéressées par l'idéologie, aussi parce que c'est ce qu'on leur demande. On leur demande d'être des modèles de vertu. On leur demande d'être aussi à la fois surveillante et surveillée, c'est-à-dire que ce sont des femmes à qui on va demander d'être un modèle de vertu et un modèle de religiosité, donc on va les surveiller, mais on va également leur demander d'être celles qui vont aller vérifier que tout le monde, et notamment les autres femmes, mais aussi leurs époux, leurs enfants, tout satisfait le modèle de société attendu par les islamistes. Là est le rôle des femmes. Et je pense que vous me demandiez pourquoi est-ce que tout d'un coup, en quelques semaines, vous avez des femmes qui passent le cap. Encore une fois, parce que alors, j'ai écrit dans mon livre un grand nombre de profils différents. Il y a malheureusement un profil par radicalisation, je dirais. C'est en tout cas à peu près le grand point d'accord de tous les interlocuteurs que j'ai eus sur ce sujet. Et c'est aussi ce que m'ont confirmé mes allers-retours sur les réseaux sociaux. C'est très compliqué d'établir un profil type de femme radicalisée. Et d'ailleurs, un homme radicalisé, c'est pareil. Néanmoins, vous avez énormément de femmes qui, au départ, ont une vulnérabilité. Ça peut être une marginalisation sociale, ça peut être un sentiment de discrimination, peu importe la discrimination. Ça peut être beaucoup de femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Ça peut être beaucoup de choses. Je parle des violences sexuelles parce que dans la... Et d'ailleurs, même la sexualité libre, vous avez certaines femmes qui ont vécu une sexualité, que celle-ci soit consentie ou non, comme un péché, et que, en tout cas, elles vivent dans une société où ceci est considéré comme leur faute. Elles en sont tenues responsables et par conséquent vont aller chercher la rédemption dans une radicalité religieuse.
Ce qui absoudrait, selon elles, ce péché.
Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parlait de Ayad Boumediene. C'est aussi le cas de Souad Merah, c'est le cas de tout un tas d'autres femmes radicalisées, certaines un peu moins connues que ces deux-là, qui ont eu cette dualité pendant plusieurs années de... Je vais utiliser cette expression qu'on a beaucoup entendue, qui sont passées du bikini à la burqa et qui faisaient des allers-retours entre les deux, l'un étant censé leur apporter la rédemption pour l'autre. Mais voilà, pour répondre à votre question, vous avez quand même un certain nombre de femmes qui ont passé le cap parce que les islamistes leur ont fait des promesses qui pour la plupart n'ont pas été tenues, leur ont fait des promesses de « vous allez devenir puissante, vous allez être émancipée et vous allez avoir enfin un rôle fondamental dans la société que l'on propose ».
Il y a quelque chose de tout à fait curieux. Certes, les chiffres sont des êtres fragiles qui disent n'importe quoi sous la torture. Et dans une émission précédente, à propos des femmes portant le voile intégral, la burqa, que sais-je encore, et sur un échantillon, c'était avant la loi de 2010, ce travail a été mené, et sur un échantillon de 1000 femmes interrogées, on a trouvé une bonne proportion d'esthéticiennes. C'est curieux, mais c'est comme ça.
C'est vrai que j'avais entendu ça.
Thank you. Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de l'islamisme et notamment dans sa version djihadiste violente avec Maître Eliafi. Louise Eliafi est avocate, essayiste, enquêtrice, en l'occurrence s'intéressant à la fois au féminisme et au féminisme quand il dégénère aussi en violence. Que diriez-vous, chère Louise Eliafi, de la phrase, je ne suis même pas sûr qu'elle soit de lui, c'est le père du surréalisme, André Breton, qui avait dit ou aurait dit « Ah, si on avait confié les affaires du monde aux femmes, nous aurions eu moins de violence et de drames, parce qu'avec les hommes, on voit ce que ça donne. » Et donc, à supposer que cette phrase ne soit pas apocryphe, quand on voit la violence à Raqqa, par exemple, et parfois exercée par les femmes, comment l'expliquez-vous ? Les femmes ne sont pas, ne doivent pas être, à moins que ce soit un poncif, j'espère pas misogyne de ma part, ne devraient pas être enclines à être aussi cruelles et féroces.
Je crois que la seule raison... Je ne suis ni historienne ni psychiatre pour être bien sûre de ce que je vais affirmer, mais je pense quand même que l'une des grandes raisons pour lesquelles les femmes sont moins violentes physiquement que les hommes, c'est aussi surtout parce que on leur a interdit et que c'est un peu plus autorisé pour les hommes et que ça n'est pas le rôle qui est celui que l'on donne aux femmes. Vous leur donnez le droit d'être violentes, elles l'ont montré effectivement à Raqqa. Elles étaient ravies de pouvoir l'être, au contraire. Vous avez énormément de femmes qui sont arrivées à Raqqa, qui étaient très déçues de voir qu'en fait, elles n'allaient pas porter la Kalachnikov comme leur compagnon. Donc, vous aviez quand même une volonté, pas chez toutes, mais une grande volonté chez beaucoup d'entre elles, de porter les armes et de les utiliser. Et effectivement, à Raqqa, je parlais des limites de la sororité tout à l'heure, si vous regardez la violence qui a été celle de cette brigade qui s'appelle Al-Khansa...
La maîtresse éponyme, si je puis dire.
Tout à fait.
Et cette poétesse, enfin, il y a un travers de la langue française, quand une femme a du génie, on dit le grand poète, quand on a un petit talent, on dit la poétesse.
Voilà.
Mais bon, donc c'est le grand poète que fut voilà. Al-Khansa.
Exactement. Et cette brigade a quand même, c'est vous dire, cette brigade a été interdite par Daesh tellement elle était violente. C'est-à-dire que même Daesh était choqué par la violence de cette brigade. Donc c'est pour vous dire à quel point elle avait dépassé toute commune mesure dans la cruauté. Mais je parlais des limites de la sororité. Cette brigade, juste pour rappel, c'était la brigade des mœurs féminines qui, donc c'était des femmes qui se baladaient dans la rue, en voiture, à pied, peu importe, et qui arrêtaient des femmes dont elles considéraient qu'elles ne portaient pas le voile intégral tel que réglementé par l'organisation État islamique. Elles arrêtaient les femmes, elles les battaient, elles les torturaient. Vous avez aussi un certain nombre de femmes qui, et il y en a certaines qui sont décédées sous les coups et la torture par ailleurs, vous avez des femmes qui ont témoigné ensuite de ce qu'elles avaient vécu à Raqqa et qui disaient « on préférait encore être arrêtées par des hommes que par des femmes ». Donc, est-ce que ça veut dire que les femmes sont plus violentes ? Non, je pense que si on leur donne l'occasion et qu'on leur explique pourquoi, là en l'occurrence pour faire fonctionner une idéologie qu'elles ont décidé d'embrasser... elles peuvent être effectivement tout aussi violentes que les hommes. Donc, pour répondre à ce que vous disiez au tout départ, mettez des femmes dans les rôles de pouvoir, je ne suis pas sûre que ce sera mieux.
Louise Eliafi, nous n'avons pas encore évoqué, mais de toute façon c'est prévu, le cas de ces femmes dans les opérations dites d'une manière euphémistique, les opérations martyrs, ce qui est encore une fois... une usurpation et une escroquerie morale, intellectuelle, spirituelle, etc. Donc les femmes kamikazes, elles y vont de bonne foi parce qu'elles sont si convaincues ou elles sont obligées ou que pensez-vous ?
Alors, les femmes kamikazes, juste pour rappel, les femmes kamikazes ne sont pas historiquement, c'est un phénomène qui reste par ailleurs encore isolé, mais qui est en fait pas si récent que ça. Ça a commencé à peu près dans les années 60-70, Ça a notamment beaucoup été le cas dans le contexte de du conflit israélo-palestinien et de tout ce qui se passait au Liban. Sachant que ces femmes kamikazes, tout comme les hommes kamikazes, ne le faisaient pas spécialement pour des raisons islamistes, plutôt pour des raisons de lutte pour la cause palestinienne. Bon, je mets ça entre guillemets parce que la cause palestinienne peut revêtir beaucoup d'aspects et celui-ci n'est pas son meilleur par ailleurs. Effectivement, ces actions kamikazes ont évolué avec les années. En tout cas, l'idéologie qu'embrassaient ces martyrs, entre guillemets, a évolué. Et effectivement, c'est plutôt l'islamisme qui a commencé à les motiver. Les femmes comme les hommes qui décident de se suicider, parce que c'est ça, c'est ce qu'on appelle une opération suicide, sont en fait très souvent influencées par l'idéologie djihadiste qui n'est autre qu'une idéologie de mort. Et quand on étudie l'idéologie djihadiste et quand on étudie même la psychiatrie, encore une fois, ça n'est pas mon métier, mais je me suis fait accompagner de gens dont c'est le métier justement, les personnes, hommes comme femmes, qui rentrent dans cette idéologie djihadiste, il est très compliqué parfois de savoir s'ils sont plus motivés par le fait de donner la mort aux autres ou par le fait de se donner la mort à soi. C'est-à-dire que vous avez un véritable désir de mort pour les autres ou pour soi-même chez ces gens. Donc les femmes qui embrassent cette opération d'une violence en commune mesure qu'est effectivement le fait de faire une opération kamikaze, comme les hommes embrassent la mort parce que c'est ce que l'idéologie leur propose.
Et en caressant cette fameuse destrudo qui est du même ordre que la libido, disent ceux qui savent mieux que nous deux d'ailleurs, enfin sûrement mieux que moi, j'allais vous poser une question sur, mais nous n'avons plus le temps, que d'autres femmes qui lisent les textes deviennent de grandes théologiennes. Iqbal Gharbi, Asma Al-Marabet, qui d'ailleurs s'est rendu compte qu'il faut enlever son voile. Celle-là, heureusement, ne glisse pas vers l'islamisme au féminin. C'était notre émission aujourd'hui. Merci infiniment.
Merci
maître. Chers amis auditeurs, vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et du livre de Louise Aliafi sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchon. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Valentin Azan-Zielinski. Et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.